Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Good evening, ladies and gentlemen.
Bonsoir, mesdames et messieurs.
I would want to say a few words.
La dernière fois que j'étais à Bagdad, c'était en octobre 1991. Cela fait donc longtemps. Si je suis de retour à Bagdad, c'est pour remplir une mission très importante. Je dirais même un devoir sacré. Je suis ici pour trouver une solution pacifique. J'espère que les discussions de ces prochains jours nous permettront, le gouvernement irakien, monsieur le président Saddam Hussein et moi-même, de trouver une sortie à cette crise. C'est le but de ma mission ici. Et j'espère que je quitterai Bagdad avec une solution qui sera acceptable pour tous. Je vous remercie.
Rémi Subsaharien a représenté le visage de la diplomatie mondiale. Kofi Atta Annan a tout de suite, dès la première année, était confronté à l'une des plus périlleuses missions qu'impose cette fonction. Devant la menace des États-Unis d'Amérique de frapper l'Irak de Saddam Hussein, qui refuse d'ouvrir ses sites aux inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, il a pris l'avion pour aller à Bagdad négocier avec Saddam Hussein. C'est sa première grande victoire depuis son arrivée à la Tour de Verre de New York. Mais ici, pas le temps de la savourer, puisque dans divers coins du globe, la paix est menacée. Cette fois-ci, il doit faire face à une guerre, à une crise humanitaire née des conséquences du génocide rwandais, le Congo démocratique. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kofi Annan. Après le terrible génocide qui a secoué le Rwanda en 1994 et l'important déplacement des populations qu'il a entraîné, alors que le monde entier est encore sous le choc et essaie parfois maladroitement d'établir les responsabilités, une idée germe et prend forme dans l'esprit de deux hommes, deux chefs d'État, le président Yoweri Museveni d'Ouganda et son protégé, celui qui l'a aidé à prendre le pouvoir au Rwanda, Paul Kagame. Il faut, pour leur sécurité, repousser le plus loin possible, vers l'intérieur du Zaïre, les réfugiés et les milices hutus massés le long de leurs frontières. Il s'agit d'éloigner la menace. Ce plan va être facilité par une autre préoccupation que partagent certains autres chefs d'État influents de la sous-région. Le président Mobutu vieillissant ne devrait pas mourir aux affaires parce que le pouvoir risque de tomber aux mains de proches collaborateurs pas très recommandables. Il ne faut pas donner l'occasion à ses proches de perpétuer ce régime. Ils sont donc un certain nombre, les dirigeants, qui s'accordent sur la nécessité de faire tomber le régime du maréchal. Et même Washington adhère à l'idée de le voir partir, d'en finir avec le vieux président fondateur. Surtout que les Américains sont de plus en plus intéressés par cette riche région des Grands Lacs dont le Zaïre constitue le cœur. Les États-Unis d'Amérique ont justement pour accomplir ce dessein des alliés qui ont leurs préoccupations à eux, l'Ouganda et le Rwanda. Et pour accomplir cette mission, il faut un homme, il faut une caution congolaise. Laurent Désiré Kabila fait l'affaire. C'est dans ces conditions que l'ancien maquisard lumumbiste réapparaît dans l'échiquier. Le vieux maquisard constitue, rassemble habilement quelques guérilleros et avec l'aide de ses alliés, il crée en septembre 1996 l'AFDEL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Au départ, ce mouvement est une pure extension du gouvernement et de l'armée rwandaise, avec en plus quelques officiers et soldats ougandais, des forces étrangères qui profitent de cette couverture pour nettoyer dans le sang les camps des réfugiés hutus proches de leurs frontières. Tcham Lesso, ancien maquisard, un des collaborateurs de Laurent Désiré Kabila.
L'idée de Museveni et même de Paul Kagame, c'était de créer un cordon sanitaire autour du Congo. Ils ont dit, attention, faisons peur à Mobutu, arrivons jusqu'à... Mais il ne faut même pas prendre Kisangani.
Laurent Désiré Kabila rassemble ses troupes et commence son inexorable montée vers le nord. En quelques mois, il va peu à peu sécuriser pour l'Ouganda toute une bande de terrain allant du nord Kivu à la frontière soudanaise. Bukavu est la première ville prise par la rébellion. Face à une armée zaïroise désorganisée, mal payée et mal formée, la rébellion avance vite. Les combats font rage dans le nord Kivu, provoquant le déplacement de 300 000 réfugiés qui fuient leur camp. En novembre 1996, le 4 exactement, le gouvernement de Kinshasa reconnaît qu'il ne contrôle plus les villes de Goma et de Bukavu. L'idée d'une intervention des forces étrangères pour voler au secours des réfugiés commence alors à circuler.
La déclaration politique de Laurent Kabila, le leader des rebelles Tutsis, à défaut d'inciter à l'optimisme quant au sort du million de morts vivants de Mugunga, a le mérite de fixer la ligne de conduite d'une alliance bigarrée que l'on sentait jusque-là aux mains des seuls militaires. Kabila a un projet qui dépasse le contrôle du Kivu, renverser Mobutu et prendre Kinshasa, rien de moins.
C'est notre objectif final.
Dans combien de temps notre stratégie?
Dans 10 ans ou...
Dans je pense que dans moins d'une année.
Lorsqu'en janvier 1997, Kofi Annan est nommé secrétaire général de l'ONU, il n'imagine pas qu'il va être confronté dans la même région à une autre catastrophe humanitaire. Mais le pire est à venir.
Moi, Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation.
En quelques mois, Laurent Désiré Kabila, avec l'aide du Rwandais et de l'Ouganda, renverse le régime du vieux maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Bwendu wa Zabanga. Mais ceci s'est fait en marchant sur des centaines de milliers de cadavres. Les organisations des droits de l'homme accusent le mouvement de libération de centaines de milliers de crimes. On parle même de génocide. On parle aussi de charniers encombrant que certains dans l'environnement imputent aux soldats, aux troupes étrangères, qui avaient surtout pour préoccupation d'éloigner le plus loin possible les milices et les populations Hutus de leurs frontières. L'ONU souhaite enquêter sur place, mais le nouvel homme fort du Congo n'est pas favorable à cette démarche. Kofi Annan n'entend pas laisser ce nouveau massacre impuni. Laurent Désiré Kabila, lui, ne veut surtout pas lâcher ses alliés d'hier. Devant son refus de laisser les Nations Unies mener ses investigations, le président Bill Clinton en personne envoie sur place un de ses collaborateurs.
Kabila n'avait que très peu d'idées sur la façon de former un gouvernement, sur la façon d'instaurer la démocratie. Il avait été dans la guérilla quasiment toute sa vie. Alors je lui ai dit assez clairement... Écoutez, c'est important que vous sortiez blanchi de cette commission d'enquête sur les massacres. Il faut savoir qu'il y a des éléments qui vous compromettent sérieusement, vous et vos troupes. Mais si vous refusez de coopérer avec la mission des Nations Unies, vous n'aurez plus aucune aide de la communauté internationale. Nous voulons que vous acceptiez cette commission. Vous serez sans doute mis en cause, mais après, tout cela sera derrière vous. Je me souviens que Kabila écoutait attentivement, mais que ses ministres étaient tous contre moi.
Mwenze Kongolo, ministre des Affaires intérieures de Laurent Désiré Kabila à cette période.
Nous, à l'époque, je me rappelle, nous disions non, la commission doit aller à l'endroit où on allègue qu'il y a eu des massacres. Pas n'importe où au Congo, mais là où... Il est indiqué qu'on a fait des massacres. Commencer par l'Est et puis remonter jusqu'à l'Ouest. Richardson est venu et insister auprès du président. Et il a dit, Monsieur Richardson, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Monsieur Richardson dit, j'aimerais que vous puissiez permettre que ces gens aillent partout. Et le président lui a dit, je vous les concède. Ils vont aller partout. Vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits.
L'envoyé spécial du président Bill Clinton.
Il avait donné sa parole et il ne l'a pas tenue. C'est ce qui me dérangeait. Kabila connaissait les risques de cette mission. Il l'avait acceptée et il a tout fait pour qu'elle ne puisse pas travailler. Maintenant, il était dans la pire situation. Celle de celui qui avait bloqué une enquête internationale.
Pour lui donc, les ennuis s'accumulent. Et ce soutien à ses alliés, à ceux qui l'ont porté au pouvoir, commence à peser. C'est bientôt la rupture. Une rupture que n'acceptent absolument pas ses voisins rwandais et ougandais. Pour eux, Laurent Désiré Kabila ne peut ainsi s'affranchir d'eux. Ils avaient pris des engagements. Ils entendaient tirer profit de cette campagne militaire au Congo. Le président Yoweri Museveni d'Ouganda ne fait pas mystère de ses sentiments et des projets qu'ils avaient pour le Congo, même s'ils mettent un accent particulier d'un coup sur le soutien que le Mzé apporterait désormais aux milices Hutus pour déstabiliser son pays.
Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain.
Abdoulaye Yeroudia, directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila.
Personne ne pouvait penser que l'Ouganda, par exemple, et le Rwanda avaient pour arrière-fond de leur pensée de faire main basse sur toutes les richesses dont le pays regorge.
Décidés à ne pas se laisser exclure du Congo par celui-là même qu'ils ont installé dans le fauteuil présidentiel, le Rwanda et son allié ougandais organisent la riposte sur deux fronts. Ils apportent dans un premier temps leur soutien à un ancien pilier du mobutisme, Jean-Pierre Bemba, qui crée dans l'Équateur, au nord-ouest de Badolite, fief du défunt président Mobutu, un mouvement de libération du Congo, le MLC, soutenu par Kampala, la capitale ougandaise. Dans le Kivu, l'entreprise de déstabilisation commence le 2 août 1998. Un mouvement politico-militaire créé de toutes pièces par les alliés rwandais et ougandais qui réunit une partie des chefs de file Banyamulenge et les officiers déçus des forces armées congolaises et d'autres mécontents parmi lesquels les Mobutistes. Le RCD, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, mène désormais la rébellion. Sur le terrain, cette rébellion avance presque aussi vite que celle que dirigeait Laurent Désiré Kabila l'année précédente. Ce groupe prend rapidement le contrôle des ressources minérales des provinces orientales du pays, avec pour centre des opérations Goma. Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD, prend également le contrôle des villes de Bukavu et Uvira au Kivu. Le gouvernement rwandais constitué de Tutsi, allié avec l'Ouganda et avec la bienveillance du Burundi, occupe de son côté une portion du nord-ouest du Congo. Pour contrer ces nouveaux occupants, le président Laurent Désiré Kabila en appelle à l'aide des Hutus militants dans le Congo oriental et commence même à monter les populations contre les Tutsis. On va assister à une véritable chasse aux faciès dans les rues de Kinshasa, de véritables lynchages le plus souvent par le supplice du pneu. Abdoulaye Rodia Dombassi, le conseiller du président Laurent Désiré Kabila, appelle même à exterminer méthodiquement les Rwandais. Pendant ce temps, dans l'Est, les combats s'intensifient et la rébellion avance. Le Rwanda réclame carrément une partie significative de l'Est du Congo, considérée comme historiquement rwandais. La tension est à son comble dans le pays. En un mouvement d'étau, les rebelles du RCD s'emparent d'un avion de ligne et atterrissent à la base gouvernementale de Kitona sur la côte atlantique où ils sont rejoints par des troupes mutinées. C'est avec elles qu'ils vont prendre le contrôle de plusieurs villes aux alentours de Kitona. Le 13 août 1998, les rebelles prennent possession du complexe hydroélectrique d'Inga qui alimente en électricité Kinshasa et y occupent également le port de Matadi d'où part l'essentiel de l'approvisionnement en nourriture et hydrocarbures de la capitale. Ils sont en position de force et occupent quelques villes dont le sous-sol est particulièrement riche. Laurent Désiré Kabila.
Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité. Mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Et il faut un respect mutuel.
En août 1998, Laurent Désiré Kabila, qui doit absolument stopper l'inexorable avancée des troupes rebelles, négocie l'appui de l'Angola, de la Namibie, du Tchad et du Zimbabwe, qui dépêchent sur place des troupes. Mais les rebelles contrôlent désormais les principales villes du Kivu, frontalière du Rwanda et du Burundi, Goma, Bukavu et Uvira. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda.
Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Des intérêts concernant principalement la sécurité de nos frontières. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas respecté nos accords. Et il s'est retourné vers l'Angola, le Zimbabwe, en leur faisant croire que nous étions en train d'essayer de contrôler la politique du Congo.
Pour défendre leurs intérêts, comme le dit le président ougandais, les alliés voisins du Congo, les ex-soutiens de Laurent Désiré Kabila, vont aider la rébellion qu'ils ont suscitée en août 1998, le RCD, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Il est basé à Goma et il a pour président Wamba Diawamba, un professeur fraîchement revenu de Tanzanie. Le mouvement politico-militaire réunit une partie des chefs de file Banyamulenge et du Kivu, les Tutsis du Congo, des officiers déçus des forces armées du Congo et d'autres mécontents parmi lesquels des Mobutistes. Curieux attelage dont le seul objectif est de renverser Laurent Désiré Kabila. Sur le terrain, ils avancent vite, très vite, puisque dès le mois d'août 1998, Kisangani est sous leur contrôle. Sous la menace des forces étrangères, Laurent Désiré Kabila va se tourner vers de nouveaux alliés pour défendre son pouvoir, des États de la sous-région. Les premiers qui vont répondre à son appel sont curieusement les membres de la SADC, la Southern African Development Community. Après une rencontre le 19 août 1998 à Harare, la capitale zimbabwéenne, la Namibie, le Zimbabwe et l'Angola vont rapidement accepter d'apporter leur soutien au gouvernement de Laurent Désiré Kabila, chacun pour des raisons différentes. Ce qui est sûr, c'est que la région est en ébullition. Kofi Annan regarde tout cela de New York. Pour l'Angola, c'est l'occasion d'éliminer les bases de l'UNITA de Jonas Savimbi qui approvisionne les rebelles en échange de diamants. Pour le Zimbabwe, le plus ardent soutien du Mzé Kabila, la raison est d'abord financière. Il veut profiter à son tour des énormes richesses du pays. Le président a monnayé son appui. Il est aussi question d'accroître son prestige et de se confronter à Yoweri Museveni d'Ouganda. La Namibie a, à peu de choses près, les mêmes ambitions. D'autres nations africaines contactées vont se joindre aux forces congolaises, notamment le Tchad, qui après le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine du 24 septembre 1998, va envoyer un millier d'hommes. Le gouvernement de Muammar Gaddafi de Libye, lui, va fournir des avions pour transporter les troupes tchadiennes. C'est l'occasion à cette période-là, pour le leader libyen, de briser l'isolement dans lequel il est encore enfermé après la destruction de l'avion de la Paname au-dessus de Lockerbie. Une façon de casser l'embargo dont il souffre. Avec de tels soutiens, Laurent Désiré Kabila peut répondre aux attaques coordonnées de la rébellion. Les forces zimbabwéennes sont envoyées à Kinshasa pour contrer les attaques rebelles menaçant les abords de la ville, ces derniers ayant fait parvenir des troupes du sud par les frontières de l'Angola et de l'ouest par l'enclave de Cabinda. Grâce à l'appui des troupes zimbabwéennes et angolaises, Kinshasa reprend le contrôle du sud-ouest frontalier de l'Angola. L'avancée de la rébellion est stoppée. La contre-offensive s'organise. Cette intervention de plusieurs nations va sauver le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, qui repousse loin de la capitale les lignes de front. Dans l'Est, Muller et Umbika font de même les forces républicaines fédéralistes pour regrouper les Banyamulenge hostiles à la Deuxième Guerre du Congo et à l'occupation rwandaise, qui dessert, selon eux, les intérêts de la communauté rwandophone du Congo. Désormais, malgré les violences sur le terrain, c'est le gouvernement congolais qui refuse le cessez-le-feu, qui, de fait, hypothèque la souveraineté du Congo. Surtout que la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, en légitimant les interventions militaires du Zimbabwe, de l'Angola et de la Namibie invitées par Kabila, ne condamne pas l'implication du Rwanda et de l'Ouganda aux côtés des rebelles. En octobre 1998, le président zambien Frédéric Tshiluba obtient avec les ministres de 11 pays africains le principe d'un cessez-le-feu. Mais il est plutôt fragile. Parallèlement aux négociations sous-régionales, le président congolais se lance également dans une importante offensive diplomatique pour sensibiliser les grandes puissances sur cette ingérence, cette occupation de son pays. C'est ainsi que malgré la rancœur et les critiques adressées à Paris lors de la conquête du pouvoir l'année d'avant, malgré les plaintes déposées auprès de la justice par les organisations des droits de l'homme, Laurent Désiré Kabila est à Paris en novembre 1998 pour le sommet Afrique-France qui se tient cette année-là au Louvre.
La conférence franco-africaine. Mais nous allons, avec un grand espoir, faire entendre notre voix, la voix du peuple congolais qui est maintenant occupée par des forces étrangères. Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé et vous avez mis l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans notre cas, tout le monde est calme. Deux poids, deux mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin. Il faut demander aux occupants de quitter le pays. Et cela, nous allons aussi le demander à la conférence franco-africaine.
Kofi Annan, aux côtés du président Jacques Chirac, va peser de tout son poids pour obtenir un cessez-le-feu à RDC. Mais sera-t-il écouté? Comment compte-t-il mettre un terme à cette guerre qui ensanglante à nouveau le pays et qui désormais implique près d'une dizaine de nations africaines? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
L'ONU et ses agences sont très engagées, Démocratique, République démocratique du Congo, est dans le Grand Lac. On continue à faire notre travail. J'espère que les autres feront la même chose. Le plus important, c'est d'aider les peuples congolais. Ils ont beaucoup souffert. Et depuis des années, tout le monde avait espéré qu'avec le changement, ils vont être soulagés. On ne peut pas les abandonner.
S'il fait preuve d'indulgence vis-à-vis du régime de Laurent-Désiré Kabila, c'est parce qu'il est conscient, en tant que secrétaire général des Nations Unies, que son peuple souffre du chaos qui secoue le Congo de part en part en ce milieu d'année 1998. Kofi Annan, bien que contrarié par le refus du chef de l'État congolais de laisser les inspecteurs des Nations Unies mener librement leurs enquêtes sur les crimes commis pendant sa conquête du pouvoir, choisit une autre option.
Et je crois qu'on a fait le maximum. On était très patients. On a fait tout ce qu'on peut pour trouver la vérité. Et j'estime aussi que c'était juste de faire le maximum pour vraiment essayer de savoir qui avait tué qui et pour quelle raison. Donc, ce n'est pas un échec. On va continuer l'enquête à l'extérieur si on décide de retirer l'équipe depuis Genève.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kofi Annan, qui nous conduit dans les multiples conflits qui secouent de part en part le monde. Cette fois-ci, nous sommes en République démocratique du Congo, un peu plus d'un an seulement après sa nomination comme secrétaire général de l'ONU. Isolé, bousculé par les rébellions suscitées par ses anciens alliés rwandais ou ougandais, sous pression des Nations Unies qui souhaitent accéder à certaines régions pour enquêter sur les milliers de morts et de disparus enregistrés pendant sa conquête du pouvoir, Laurent-Désiré Kabila comprend en cette fin de l'année 1998 qu'il joue son va-tout. Parallèlement aux négociations sous-régionales, le président congolais se lance dans une importante offensive diplomatique pour sensibiliser les grandes puissances sur cette ingérence, cette occupation de son pays. C'est ainsi que malgré la rancœur et les critiques adressées à Paris lors de la conquête du pouvoir l'année d'avant, malgré les plaintes déposées auprès de la justice par les organisations des droits de l'homme, Laurent-Désiré Kabila est à Paris en novembre 1998 pour le sommet Afrique-France qui se tient au Louvre.
Vous l'avez noté, Luc Lemonnier, bien que parlant très bien français, même s'il prétend le contraire, on aura remarqué que Laurent-Désiré Kabila, le président de la République démocratique du Congo, ne participait pas cet après-midi à la rencontre des francophones à Paris. Car aujourd'hui, il était en Belgique et à l'occasion de son passage à Bruxelles, il a accordé une brève interview à notre correspondante, Anne-Marie Mouradian. Une interview pour expliquer les raisons de sa venue en Europe.
La conférence franco-africaine. Mais nous allons, avec un grand espoir, faire entendre notre voix. La voix du peuple congolais qui est maintenant occupée par des forces étrangères. Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé et vous avez dit l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans notre cas, tout le monde est calme. Deux poids, deux mesures.
Laurent-Désiré Kabila souhaitait rencontrer Jacques Chirac. Impossible, a répondu l'Élysée. À défaut, le président congolais s'est entretenu avec Hubert Védrine. Il souhaite que la France coopère à nouveau plus étroitement avec lui.
La France ne bouge pas assez vite. Elle bouge mollement. Il faut que les choses s'arrangent entre nous dans le domaine d'abord de la coopération bilatérale. Et puis il faut que la France et d'autres grandes puissances se prononcent pour faire respecter la charte de Nations Unies.
Il faut dire, Gérard Zénoni, que le président congolais cherche des soutiens partout, car sa situation militaire est de plus en plus précaire, et la situation humanitaire du Congo est absolument catastrophique. Une organisation humanitaire vient même de dénoncer un massacre.
Des massacres à coups de sagaie et de machettes, et qui touchent sans distinction les hommes, les femmes et les enfants. Cela se déroule dans l'est du pays, dans une région contrôlée par les forces ougandaises. La situation de Kabila est inconfortable, vous le disiez. Après avoir renversé Mobutu et conquis le pays de haute main, il doit faire face à une forte rébellion. Certes, son régime est soutenu militairement par l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe, mais la rébellion est appuyée, elle, par l'Ouganda et le Rwanda. Cela fait beaucoup, même pour un grand pays comme l'ancien Zaïre, dorénavant République démocratique du Congo. Pourtant, en août dernier, toutes les parties du conflit avaient signé un accord de paix à Lusaka, mais les combats ne devaient pas cesser pour autant, chacun accusant l'autre de violer le cessez-le-feu. Alors Kabila était à New York justement cette semaine en compagnie de 6 autres chefs d'État de la région pour tenter de trouver une solution au conflit. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni en session spéciale, s'est engagé à déployer rapidement une force de 5500 hommes. Rapidement, on sait ce que cela peut signifier en diplomatie. Mais il faudra faire vite car les massacres que nous évoquions ont déjà fait 1300 morts dans des conditions atroces.
La conférence franco-africaine va l'écouter et se joindre aux négociations pour un cessez-le-feu. Et quelques jours plus tard, à Lusaka, en Zambie, le principe est adopté. Un cessez-le-feu qui consacre le statu quo à Kinshasa comme dans le reste du pays. Il est plutôt fragile, comme le laisse déjà entendre Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies.
Tout le monde s'est mis d'accord d'accepter un cessez-le-feu d'hostilité immédiate, cessez-le-feu aussitôt que possible. J'espère que ça peut être concrétisé à Lusaka d'ici très peu de temps. L'ambiance était bonne, tendue peut-être, mais pas hostile.
Pas hostile, pourtant sur le terrain, les combats se poursuivent. Et Laurent-Désiré Kabila ne peut accepter un cessez-le-feu qui entérine de fait que l'on négocie ainsi la souveraineté de son pays.
La cessation d'hostilité ne signifie pas que l'on dépose des armes. Et pour une armée nationale, comment allons-nous déposer les armes ? Cessation d'hostilité suivie de toute une sorte de réunions qui vont aboutir par la signature du cessez-le-feu lui-même et naturellement l'exigence pour les agresseurs d'évacuer les territoires qu'ils occupent.
Vous signerez ?
Parce que nous sommes partie prenante de la réunion d'aujourd'hui qui est arrivée à cette conclusion, nous allons apposer notre signature.
Apposer la signature ne signifie absolument pas la cessation des hostilités. Déjà que l'Ouganda, le même mois de novembre 1998, a lancé, a appuyé la naissance d'un nouveau groupe rebelle, le Mouvement des Libérations du Congo, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Il opère dans le nord et contrôle le territoire de la région de l'Équateur à partir de la ville de Badolite. Il faut dire qu'en réalité, aucun des protagonistes de ce conflit, du moins dans la rébellion, n'a envie de mettre fin à cette guerre. Les troubles dans la région sont bons pour les affaires, pour l'exploitation des richesses minières dont regorge le sous-sol congolais. En fait, on fait tous mine de vouloir la paix, mais on ne déploie pas tous les moyens disponibles pour la rendre effective. Ainsi, en janvier 1999, en l'absence du Congo, le principal concerné, le Rwanda, l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, décident d'un nouveau cessez-le-feu au sommet de Windhoek. Une décision sans effet puisque sur le terrain, les combats se poursuivent. Kofi Annan.
Selon l'information qu'il y en a, il y a pas mal d'États et certaines d'autres personnes qui sont en train d'exploiter la richesse de la République démocratique du Congo. Donc ils sont intéressés dans la guerre, ils sont contre l'idée même de la paix, parce que si évidemment ils sont en train de faire un profit énorme, s'il y a de la paix, ce sera la fin. En anglais, les gens parlent souvent de war profiteers. Je ne sais pas l'exacte phrase en français.
Les profiteurs de guerre.
Donc je crois que si on arrive à vraiment mettre la lumière sur ça, qui fait quoi, qui exploite quoi, et pour quelles raisons, comment la guerre est financée, tout ça, ça peut aider. Et ce n'est pas seulement au Congo, mais on a vu ça en Afrique, en Sierra Leone, on a vu ça en Angola. Et je crois que c'est une façon d'essayer de confronter ce phénomène qu'on trouve en Afrique ces jours-ci, où la guerre est devenue très profitante pour certains. Il faut essayer d'arrêter ça.
Dans cette période de forte turbulence, Laurent-Désiré Kabila, qui s'était surtout illustré, qui s'était toujours présenté comme un nationaliste, un révolutionnaire opposé aux puissances occidentales, qui ne se gênait pas jusque-là pour critiquer et dénoncer leur invasion, est obligé de solliciter leur secours. Il déploie toute sa machine diplomatique. Il faut convaincre la communauté internationale qu'il est victime de l'envahissement de ses voisins. Il est sur tous les fronts. Il se mobilise, se déplace pour faire entendre sa cause à la communauté internationale. Mais il a un caillou dans la chaussure. Il traîne un boulet qui rend inaudible son message. Le massacre de près de 200 000 réfugiés Hutus lors de la conquête du pouvoir brouille son message. Il faut accepter l'enquête qu'exigent les Nations Unies et les États-Unis d'Amérique, qui au passage ont un faible pour le régime de Kigali. Ce qui a pour effet d'agacer le Mzé Kabila, qui désormais reconnaît que des crimes ont été commis sur les Hutus, mais par les troupes rwandaises de l'expédition. La pression de Washington est telle que le dialogue entre les deux parties n'est plus vraiment courtois. Le président Laurent Désiré Kabila finira même par accrocher au nez de la secrétaire d'État américaine, la puissante Madeleine Albright. Godefroy Tchamblesso, un des proches collaborateurs de Laurent Désiré Kabila.
C'est moi qui étais traducteur de Madame Madeleine Albright à côté de Susan Rice, hein, qui disait que le Rwanda c'était sa pupille. Bon. Clinton a invité Mzee à Entebbe. Mzee a complètement. Nous allons coopérer. Clinton lui dit, envoyez-moi un ambassadeur qui peut être l'interlocuteur direct. Je vous envoie quelqu'un qui est militaire, qui est mon homme de confiance, depuis le maquis. Je vous envoie. On m'a nommé candidat ambassadeur aux États-Unis. Vous savez la réponse qui est venue? Par les secteurs conservateurs du Parti démocrate qui était au département d'État, à la CIA et tout ça. Il est cubain, il est espion. 6 mois après, on m'a refusé la nomination. Mais j'étais comme, quelques mois après, Madame Albright est venue, Madeleine. C'est moi qui l'ai accompagné à l'aéroport avec Bizimakara. C'est moi qui étais le traducteur officiel.
J'étais l'ancien ministre des Affaires étrangères, non? Bizimakara.
Ouais. C'est moi qui étais... Alors, Mzee Barbuta a dit, madame, c'est l'homme que vous allez... Et je voulais vous envoyer comme ambassadeur à Washington. Il amène à votre traducteur, c'est mon bras droit ici au cabinet. Et on a rigolé. C'est moi qui l'ai envoyé. Bizimakara et moi, nous avons amené jusqu'au... Premier contact avec les Américains, tête à tête, Clinton à Entebbe. Cherchez les dates. Deuxième contact, Mzee a accepté l'invitation d'aller aux Nations Unies. OK? Il est allé. Et sur ce point, il a consulté tout le monde. Fin diplomate. Mzee, pour vous dire une chose, a été le premier à amorcer les dialogues intercongolais. Par deux biais. En créant une commission de dialogue intercongolais ici, attachée au Parlement des transitions. En contactant les milieux Saint-Giulio en Italie. Tout cela s'était passé inaperçu.
La tension avec les Nations Unies et les États-Unis durera au Congo jusqu'à l'assassinat 2 ans plus tard du président Laurent Désiré Kabila dans son bureau.
Je venais de parler avec General Aboubakar il y a 15 minutes. Et lui-même, il est en train de prendre des mesures. Il est aussi choqué par cet développement parce qu'il avait des projets dans des jours à venir en ce qui concerne des prisonniers, y compris à Biolan. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir calmer la population. Et peut-être s'ils arrivent à libérer les autres prisonniers politiques, peut-être ça peut aider aussi.
Si Kofi Annan réagit ainsi à la disparition du leader nigérian le 7 juillet 1998 à Abuja, c'est parce que Moshood Abiola était un leader important dans le processus de démocratisation du pays. Homme d'affaires, philanthrope, éditeur, chef de tribu chez les Egba et homme politique, Moshood Abiola avait largement remporté l'élection présidentielle nigériane de 1993. Mais le scrutin avait été annulé par le général Ibrahim Babangida. Et Moshood Abiola avait ensuite été arrêté et emprisonné le 23 juin 1994 à Lagos. Ce qui a conduit à un coup d'État mené par Sani Abacha, qui tenait d'une main de fer le pays. Une dictature militaire féroce dénoncée par la communauté internationale. Kofi Annan œuvrait pour la libération de Moshood Abiola. Il est mort d'une crise cardiaque après 4 ans d'emprisonnement, le jour même où il devait être libéré. Il faut dire que dans le processus de démocratisation du Nigeria, Kofi Annan s'implique particulièrement. Il va aider à promouvoir la transition à un pouvoir civil au Nigeria qui aboutira finalement à l'élection d'Olusegun Obasanjo. En janvier 1998, la chute du leader indonésien, le général Suharto, qui a refusé jusqu'au bout d'accorder tout statut spécial au Timor oriental, l'ancien territoire portugais, précipite les choses pour l'île. Son successeur, Youssouf Habibie, dépendant de l'aide occidentale alors que son pays subit l'impact de la crise économique de 1997, se doit de faire des concessions politico-diplomatiques. Kofi Annan est très attentif à ce qui se passe dans cette île. Le ministre indonésien des Affaires étrangères accepte le principe d'une consultation d'autodétermination organisée par les Nations Unies auprès des Timorais. Le 5 mai suivant, sous l'égide de l'ONU, l'Indonésie et le Portugal signent un accord prévoyant un référendum pour le 30 août. À cette date, les Timorais choisissent l'indépendance par le référendum organisé par l'ONU. 78,5% des Timorais refusant l'autonomie interne proposée par le gouvernement indonésien. Aussitôt, la province est mise à feu et à sang par des milices pro-indonésiennes ne dépendant pas du gouvernement, mais jouissant d'une impunité totale et refusant de reconnaître l'écrasante victoire au référendum en faveur de l'indépendance. Dans une démonstration de force sans précédent, les milices indonésiennes s'emparent de Dili, la capitale, et lancent une chasse sanglante aux indépendantistes. Kofi Annan, qui ne veut pas revivre le cauchemar du Rwanda, prend rapidement les dispositions militaires pour mettre un terme à ces tueries. Mais il faut mobiliser des troupes. Après plusieurs jours d'assassinats, de déportations et de pillages, l'ONU se décide à envoyer une force multinationale sous commandement australien, l'Interfet, pour imposer la paix. Le 20 septembre 1999, le Timor oriental devient un territoire sous administration provisoire des Nations Unies. Le 20 octobre 1999, l'Assemblée consultative du peuple abroge la loi d'annexion de 1976 et ratifie un décret entérinant les résultats du référendum du 30 août précédent. Le 25 octobre 1999, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1272 qui portait création de l'administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental, administration civile et de maintien de la paix dont le mandat sera prolongé à deux reprises jusqu'à l'accession formelle du pays à l'indépendance le 20 mai 2002.
On a pu organiser une force pour aller, force onusienne, pour aider, calmer les choses maintenant. C'est un pays indépendant qui a une très bonne relation avec ses voisins, Indonésie et l'Australie.
Ce succès au Timor oriental revêt une importance particulière pour Kofi Annan, qui est parvenu à sauver beaucoup de monde dans cette île et à permettre au pays de se libérer du joug du colonisateur. Mais il va rapidement être confronté dans les mois qui suivent à un défi très différent, très violent, qui va profondément influencer les clivages sur toute la planète.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Ce sont bien deux avions qui se sont abattus sur chacune des deux tours du World Trade Center de New York. Ici sur cette image, le deuxième appareil qui vient percuter la deuxième tour. Les Twin Sisters, ces deux tours jumelles, véritables monuments historiques de Manhattan, sont le symbole de la toute-puissance financière et commerciale de l'Amérique.
Cet attentat qui frappe les États-Unis d'Amérique en plein cœur ouvre une nouvelle ère dans la diplomatie mondiale. Rien ne sera plus comme avant, comme nous allons le voir, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Le secrétaire général des Nations Unies aura-t-il les pouvoirs, mais également les moyens nécessaires pour faire face à cette nouvelle menace, à cette nouvelle donne? On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI, à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com. Ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Une semaine d'actualité